avec ce soir avec nous en direct par téléphone Hugues Jalon. Bonsoir Hugues, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir.
Alors ma première question, est-ce que tu peux nous présenter d'une manière générale ce qui se passe dans ton dernier livre, Zone de combat ?
Écoute, qu'est-ce qui se passe ? Il y a peut-être au départ une question que je voulais poser qui était, qu'est-ce qui nous fait tenir ensemble ? Qui est une question de politique générale, qui est peut-être la question politique fondamentale, mais qui est aussi une question qui intéresse chacun de nous dans le privé, c'est-à-dire la question du couple, la question des amis, la question des relations. Qu'est-ce qui fait tenir une société ? Qu'est-ce qui fait tenir des groupes ? Qu'est-ce qui fait tenir des couples ? À partir de là, il y a une trame narrative, disons un fil narratif relativement ténu qui se déploie dans le livre, qui met en scène un couple, ou plusieurs couples, avec cette spécificité que il parle à la première personne du pluriel, c'est-à-dire qu'il dit « nous » sur quasiment 80% du livre. On aura sans doute l'occasion d'en reparler parce que c'était quand même un des partis pris importants et assez difficiles du livre. Ce qu'on apprend, c'est que ce couple-là doit surmonter une épreuve. On comprend vaguement qu'il a échappé à un attentat terroriste ou quelque chose de ce genre-là, enfin une sorte d'épreuve physique et psychologique. Il doit se reconstruire et il fait appel, on va dire, à des techniques, des appareillages, des procédures, des protocoles qui vont chercher dans des groupes de parole, des techniques de coaching, etc. Ils vont s'inclure dans des groupes, donc un nous, un couple qui s'inclut dans d'autres nous, dans d'autres groupes, pour essayer de s'endurcir, de se remobiliser, de surmonter leurs l'épreuve qu'ils ont dû vivre. Et le récit rebondit à un moment sur l'irruption de l'épreuve suprême qui est l'arrivée, l'apparition d'une sorte d'épidémie de cauchemar qui touche l'ensemble de la société. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Enfin voilà, pour donner peut-être le fil narratif ténu du livre.
Donc, ce groupe qu'on suit, c'est un couple. Ils ont échappé à un épisode traumatique. Ils essayent de se reconstruire. Et ils parlent à qui ? T'as parlé du « nous », il y a un « vous » aussi. À qui est parlé, du coup ? Est parlé au couple, mais qui leur parle ?
Alors, c'est vrai que là, il y a un « nous » qui est... il y a un « vous ». Il y a une adresse intérieure au... si tant est que ça puisse avoir un sens pour ce livre-là. Mais en fait, il y a une confusion entretenue et délibérément sur cette succession, cette juxtaposition des nous, qui sont aussi des formes d'emboîtement des nous. Puisque finalement, j'essaie de concevoir le nous à son échelle la plus réduite, c'est-à-dire celle du couple, et essaye, dans certains chapitres, au contraire, que le nous devienne finalement un nous social, c'est-à-dire le plus social et le plus neutre possible, c'est-à-dire que c'est la société qui se raconte à elle-même. Donc essayer, comme ça, par un système quasiment de poupées russes, d'intégrer les nous. Et donc de reposer cette question qui me semble être une question politique fondamentale, qu'est-ce qui nous fait tenir ensemble, mais essayer de la poser dans des formes qui fassent que ça devienne une question littéraire. D'où la difficulté. C'était vraiment une épreuve littéraire d'écrire au nous. Enfin, il faut juste le représenter, qu'on soit écrivain ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très intéressant, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on dit nous, on est très fort. Et enfin, c'est ce qu'on se dit, on est à plusieurs, on forme un groupe, finalement c'est la condition pour la survie, c'est la condition pour surmonter des épreuves. Et en fait, on se rend compte que d'un point de vue bêtement littéraire, c'est très très difficile d'écrire au nous. C'est-à-dire qu'on n'a rien à dire, on a très très peu de choses à dire. Parce que finalement, on n'a pas de personnage, on dit nous, on fait des projets, on fait des choses ensemble, mais finalement on arrive à faire assez peu de choses ensemble, on arrive à dire assez peu de choses aussi ensemble. Donc c'était une vraie surprise de découvrir ce paradoxe pratique quasiment dans l'écriture que le collectif, la politique, le social, tout ça c'est revendiqué comme étant des valeurs positives qui renforçantes quelque part. C'est parce qu'on est deux, parce qu'on est trois, parce qu'on est un million, plusieurs millions qu'on va survivre. Mais en même temps on n'a rien à dire quand on se met dans cette position là.
Et alors du coup dans cette fiction on est dans le monde actuel. On est dans notre société actuelle ou est-ce qu'on est dans notre monde, mais dans une autre société. Est-ce qu'on est vraiment dans notre monde, dans notre société?
Ben, disons que je voulais décrire notre société avec ses pathologies sociales. L'obsession du bien-être sécurisé, par exemple. Voilà l'idée de s'outiller pour se protéger. Enfin, il y a quand même des échos assez forts, notamment puisqu'il y a cette question des cauchemars qui apparaissent, puisque les personnages, enfin la société se met à rêver, enfin à cauchemarder sur la mort violente de ses enfants, que ce soit sous la forme de suicide ou d'accident domestique. Donc il y a cette espèce de la peur de l'accident domestique, la sécurisation des intérieurs, la question du terrorisme aussi qui est assez présente, fait écho à une société contemporaine. L'idée, je pense que le récit l'extrémise un peu, c'est-à-dire le radicalise certains traits pour la faire ressembler à une société du futur, mais il me semble au départ que, enfin, en tout cas, j'avais plutôt l'intention de formuler une épure de ce que nous vivons.
Alors, ces quelques règles que tu viens de nous formuler, on ne les trouve pas on ne les trouve pas forcément dans le texte, c'est-à-dire que c'est au lecteur de trouver les propres règles de la fiction. Explique-nous pourquoi tu as voulu faire cacher les règles de ta fiction dans la fiction.
C'est vrai qu'au départ, peut-être ce que j'ai tenté de faire, c'est de désorienter. C'est-à-dire que je voulais, disons, ça peut paraître un peu bêta comme ça, mais sortir du romanesque. Donc effectivement, le lecteur n'y trouvera pas un certain nombre de choses, des personnages très identifiés, des dialogues construits, des descriptions longues, et surtout n'y trouvera pas d'images. Je pense que c'est des choses qui vont peut-être, effectivement, qui sont susceptibles de dérouter, mais il me semble que de mon point de vue, j'avais besoin, disons, de perdre. Enfin, je pense qu'il faut un moment perdre le monde. C'est pour ça peut-être aussi que c'est peut-être un texte qui tire vers la poésie, mais enfin, il faut l'oublier, l'abstraire, s'en éloigner pour finalement pouvoir en produire une description dense. Et ne pas faire finalement à l'inverse du roman réaliste plus traditionnel, c'est-à-dire plus frontal, de description de ce qu'on voit avec des personnages auxquels on peut s'identifier, qu'on pourrait reconnaître. Voilà, il y avait peut-être en tout cas, j'ai senti la nécessité qu'il fallait noyer les choses, les flouter, s'en abstraire pour pouvoir finalement en percevoir les mécanismes.
Parce que tous les éléments de repère d'une fiction, les éléments temporels, les éléments de nom, sont absents dans Zone de combat. Les règles du jeu de la fiction sont même truquées, tronquées, mais les éléments de repère, tu les as supprimés, volontairement.
Oui, c'est vrai, volontairement.
Et alors du coup, cette zone de combat, où on a l'impression des fois d'être, des fois je cite, dans la zone de combat, nous essayons de retarder les explications finales, comment on pourrait circonscrire la zone de combat? La zone de combat, est-ce que tu peux nous en donner quelques éléments?
Bah finalement, la zone de combat, c'est à la fois, effectivement, c'est l'espace de la... c'est la maison, c'est un foyer. Et ça peut aller jusqu'à, effectivement, à la planète tout entière. Ce que j'avais envie de faire, ça c'était pour moi très important, c'était de décloisonner la question du collectif, la question politique, la question sociale et la question de l'intime. D'essayer de les traiter, de repérer leurs analogies. Voilà. Donc, effectivement, je pense que c'est ça fondamentalement qui contribue au brouillage. Effectivement, il y a un brouillage littéraire, mais aussi il y a un brouillage dans, effectivement, ce grand partage, qui est vraiment le grand partage, qui est aussi le grand partage entre les sciences sociales et la littérature, entre, d'un côté, ce qui relève du politique, et de l'autre, ce qui relèverait, finalement, de la sphère de l'intime, du vécu, de la sensation, blablabla. Ce qui me semble être des choses très... un peu vieilles, mais qui demeurent encore très fortes aujourd'hui, et sur lesquelles j'avais envie de... effectivement, de continuer. Alors, effectivement, c'est un texte qui a eu certains échos, effectivement, auprès de gens qui lisent beaucoup de sciences sociales. C'est assez curieux. Alors, c'est un texte très littéraire, dans ses codes, quand on s'y perd un peu, et en même temps, j'ai senti que... il y avait une réception attentive du point de vue du côté de ceux qui s'intéressent aux sciences sociales et à la question politique. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui les intéressait.
Je précise juste que tu es éditeur aux éditions de la Découverte.
Ça aide un peu.
Ça aide aussi.
Poser ces questions-là.
Alors, je voudrais continuer sur les règles de fonctionnement de ta fiction. J'ai eu l'impression, en lisant Zone de combat, plutôt même en le relisant, que c'est une fiction qui a ses propres règles de fonctionnement. Et que dans la lecture de ce texte entre en considération pour le lecteur comment cela peut se comprendre et non pas comment cela se lit. Parce que le texte est très lisible au niveau de la lecture, c'est des mots simples, ouais. Syntaxe simple, donc ça, la lecture en elle-même ne pose absolument aucun problème. Par contre, c'est comment est-ce qu'on peut recevoir, comment est-ce qu'on peut comprendre ce texte. Donc quel jeu, là, tu en fais avec une langue simple de cette question, tout simplement, est-ce que c'est une... comment tu fais que ce soit une fiction qui se pose elle-même ses propres règles de fonctionnement en les cachant quelque part au lecteur?
Je les cache et je les cache pas. Disons que sur... je pense qu'il y a une question qui est assez centrale, c'est la question des images. Ce qui était aussi une question assez centrale dans la...
Alors, en gras, voilà. Régulièrement dans les textes, il y a « ne formez pas d'images ».
Il y a « ne formez pas d'images » et puis, effectivement, en gras, sont écrits les rêves, ces espèces de cauchemars qui surgissent à un moment où on voit des enfants connaître des accidents assez, mortels. Et ils apparaissent en gras. Donc la question des images est traitée typographiquement, mais avec cette double, avec un système d'injonction paradoxale. C'est-à-dire, il y a ne formez pas d'images. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les personnages ou le narrateur, celui qui parle, peut avoir la tentation de construire une image, il y a une voix qui surgit et qui lui dit de ne pas en former. Cette injonction est contrebalancée massivement à la fin de l'ouvrage par cette irruption, massive de rêves terrifiants que la société doit gérer.
Parle-nous de la fin, justement. Qu'est-ce qui se passe dans cette fin?
La fin est assez sinistre, puisque se joue plutôt la question de l'extinction du genre humain. Enfin bon, c'est une sorte de devenir. Terroriste des groupes, de ces groupes-là. La question du terrorisme devient plus centrale. Je vais laisser peut-être au lecteur le... C'est pas vraiment du suspense, mais disons que sur... je peux revenir sur la question des images. Ça, c'était pour moi quelque chose de très important, d'essayer de ne pas les laisser proliférer. C'était vraiment un exercice d'autocontrainte très, très violent. Éric Renoux, ne pas s'autoriser ni métaphore ni comparaison. Essayer au maximum de retenir les images. Alors évidemment, on se rend compte qu'on les retient, mais qu'ils sont produits, qu'on produit quand même des images. Il y avait quand même cette espèce de... Enfin, moi, quelque chose qui est assez personnel de ma part, assez naïf aussi, qu'on vit dans un monde de prolifération d'images et que moi, c'est vrai que d'un point de vue littéraire, j'ai pas envie d'ajouter des images à des images. Il n'y a pas besoin d'être situationniste, de bordien et tout ce qu'on veut pour avoir ce sentiment-là c'était un peu ma manière d'y réagir, hein, une sorte de parti pris que j'essayais de vouloir un peu radical, on va dire. Ça me semblait c'est pour moi, je voulais essayer de ne pas transiger là-dessus.
Tout à l'heure tu as dit sortir du romanesque.
Ouais.
Ta manière de sortir du romanesque, c'est surtout aussi de pas produire d'images.
C'est peut-être avant tout ça. Ne pas produire d'images pour pouvoir produire des descriptions.
Parce que tu produis des descriptions?
J'ai l'impression de... Enfin, ce que j'aimerais bien, c'est produire des descriptions denses. C'est-à-dire mettre au jour des mécanismes, des analogies, relier des choses. Mais pas faire image.
Parce que j'ai l'impression plutôt que tu produis de l'action.
Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très... tourner autour de l'action, puisque effectivement quand on est plusieurs, on agit. Et il y a en permanence des injonctions à agir. Il y avait aussi cette idée que effectivement quand on est nous, quand on nous parle, nous a du mal à tenir ensemble longtemps, et il a besoin de béquilles. Et tout le temps, il faut relancer la machine. Donc il faut agir, il faut faire des choses. Tout le temps, il faut avoir des projets. Et là, on retrouvait effectivement on retrouve une rhétorique qui est dans l'air du temps. Voilà, de la vie par projet, il faut toujours avoir des choses devant nous à faire, etc.
Parce qu'on se croirait à certains moments à une réunion de management.
Oui, il y avait l'idée de montrer, d'ailleurs ce sont des mondes qui sont assez proches, hein, le monde du coaching, de la programmation neurolinguistique, les thérapies cognitivo-comportementalistes, enfin tout ce monde du développement personnel, pour aller vite, qui fonctionne beaucoup par l'injonction, par la reprogrammation, et le monde du management, c'est-à-dire la remotivation des personnels, etc. Mais quelque part, c'est trop facile de ne pas voir que c'est finalement, ça participe finalement des mêmes processus, quoi. D'être bêtement anticapitaliste, finalement. Et de dire, tout ça, c'est du management, etc. Alors que, finalement, on est très vite... Enfin, l'une des sources d'inspiration du livre, pour moi, c'était Loyola, par exemple. C'est-à-dire, les exercices spirituels, c'est un truc fascinant de voir comment on peut écrire tout un livre qui fonctionne sur le modèle de l'exercice, de la procédure et du protocole. Que pour croire, qui est de l'ordre, voilà, de l'ordre de la croyance religieuse, quelque chose qu'on imagine d'extrêmement intime, eh ben, il faut, au contraire, d'après Loyola, suivre des étapes extrêmement précises, des choses qu'il faut faire, ne pas faire, etc., des développements de protocoles et de procédures. Ça m'intéressait beaucoup. C'est des choses qu'on trouve, c'est qui m'intéresse beaucoup, qu'on trouve aussi chez Bruno Latour, hein, qui est un sociologue des sciences. L'idée que il faut s'intéresser aux appareillages, aux béquilles, aux outillages. Voilà. Pas être trop substantialiste, finalement. Et s'intéresser à ce dont on a besoin pour tenir.
Donc, qu'est-ce qui nous fait tenir ensemble, du coup ?
Donc, on revient sur effectivement la question première.
Et alors, sur la forme, j'aimerais t'interroger sur cette forme que tu as utilisée. Tu n'as pas utilisé n'importe quelle forme. Tout d'abord, ce sont des paroles qui sont prononcées, proférées. Enfin, ça pourrait presque être un texte de théâtre. Ça pourrait être joué au théâtre.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et du coup, pour que ça soit peut-être plus dans le langage oralisé, pour que ce soit plus oral, il y a des phrases plutôt courtes, et il y a beaucoup de mises en paragraphe. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir affaire à un livre de vers libres.
Oui, c'est vrai, c'est très coupé, c'est très heurté. Effectivement, il y a à la fois des retours paragraphes, enfin, effectivement, mais ça peut ressembler à de la poésie libre. Et en même temps, il y a des phrases, comme tu as dû le voir, des phrases abrégées.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de coupures. Les paroles sont régulièrement interrompues. Dès qu'on pourrait en savoir plus, par exemple, c'est au bord de, au nom de. Dès qu'on pourrait en savoir plus, tu coupes.
Ouais, parce que là, c'était un peu ce que je disais auparavant, c'est-à-dire c'est montrer quelque part ces gimmicks qui permettent de. C'est-à-dire qu'il y a des trucs autour de la. Par exemple, le lié à passer par. Bon. Pour moi, c'était lié à Al-Qaïda, passer par les camps d'Afghanistan. C'est quelque chose qu'on entend, c'est la petite musique qui connecte les événements. Il se passe quelque chose, il y a une explosion, et ben, il y a un groupe lié à Al-Qaïda et des gens passés par l'Afghanistan ou le Pakistan. C'est ces connecteurs-là que j'avais envie de reprendre, de même que revendiquer par, au nom d'eux. Bon, voilà, c'était ces petites phrases. Ces connecteurs que j'avais envie de reprendre, mais en les épurant. Effectivement, peut-être que le lecteur peut avoir la sensation de manque en lisant le livre, qu'on ne lui en dit pas assez, mais en disant trop, j'aurais eu sans doute peut-être l'impression de manquer mon but, en sens de ne pas réussir à produire la description dense dont je parlais.
Alors, résumons-nous. Tu as une question centrale que tu essaies de résoudre par la littérature, c'est qu'est-ce qui nous fait tenir ensemble. Tu crées une forme assez hachée, heurtée, mais en même temps très oralisée. À ta fiction, tu essaies d'en cacher plein d'éléments pour que le lecteur soit aussi en manque de repères. Là, du coup, j'ai l'impression qu'on a affaire à un texte à dispositif, que tu as créé un dispositif. Est-ce qu'on peut parler, pour Zone de combat, d'un texte avec dispositif?
Oui, je pense que c'est ça. C'est peut-être pas le terme dispositif, mais c'est plutôt un agencement de choses. Voilà. Parce que c'était, peut-être qu'on aura l'occasion de parler du précédent livre, mais c'est un terme, c'est-à-dire le fait d'agencer, de relier des choses qui, a priori, ne semblent pas, sont dans la vie, non reliées, considérées comme sans rapport. Et donc à partir de là, ça devient un dispositif, à la fois un dispositif politique et un dispositif littéraire.
Alors, parlons de ton précédent livre, qui était La Base, rapport d'enquête sur un point de déséquilibre majeur en haute mer, une histoire de l'après-guerre, qui est paru aux éditions du Passant en 2004. C'est aussi un livre à dispositif.
Livre à dispositif beaucoup plus clair de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait d'écrire, enfin, le récit prend la forme d'un rapport.
On a des bouts de rapport, on a des bouts de documentation.
Voilà, on a des bouts de documents, mais c'est écrit dans le style d'un rapport. Donc, qui est vraiment Oui, c'est ça, la forme la plus pure de la littérature grise, du non littéraire, on va dire. Et travailler à l'intérieur d'une forme peu littéraire. Et surtout de faire un rapport, donc d'écrire un rapport sur un objet parfaitement réel. Et c'est là où peut-être la question de l'agencement était peut-être plus centrale encore. C'est-à-dire que dans la base, qui peut paraître au lecteur un récit extrêmement surprenant ou complètement inventé, il n'y a que des faits vrais. C'est-à-dire tous les faits qui sont évoqués sont vrais. Simplement, ils sont connectés ensemble de telle manière qu'ils apparaissent délirants, ou inexistants, ou inimaginables. C'est-à-dire que c'est une sorte d'agencement, oui c'est ça, un dispositif de mise en relation de faits.
Et là encore, on est dans un monde économique...
géopolitique, oui.
Et politique, enfin on trouve encore cette même thématique.
On retrouvait ces mêmes thématiques, oui, ouais, absolument.
D'accord. Ma dernière question, ça serait, du coup, vu que avec ces deux textes, ces deux fictions, on trouve vraiment une homogénéité commune, de qui te sens-tu proche dans la littérature, dans les personnes qui font de la fiction? J'imagine que tu es proche du coup d'Arlix, de Jean-Charles Masséra, par exemple.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
J'ai découvert assez tard, enfin, il n'est jamais trop tard, c'est Volodine.
Oui.
Même si je ne viens pas de la SF du tout. C'est quelque chose qui me fait le scénario social. Il y a quelqu'un comme Ballard qui m'intéresse. Et pour ce qui est des questions plus formelles, quelqu'un que j'ai découvert, alors pour le coup, sur des thématiques complètement différentes, c'est Hélène Bessette. Sur le, on va dire, le roman poétique. C'est-à-dire sur le sens du rythme. Enfin, quelqu'un comme Cadio aussi. Ce sont des gens qui me. L'oralité, surtout pour Zone de combat, que ça. Voilà, une sorte de mise en place d'une rythmique qui fait sortir du roman, en fait.
Et par rapport à Arlix et Masséra qui traitent de questions à la fois politiques et économiques,
ben disons qu'effectivement, je pense qu'on partage un souci de décryptage des discours disponibles, de décryptage de valorisation, avec enfin, l'idée que moi qui me semble très très importante en littérature, c'est-à-dire de, à un moment ou à un autre, suspendre le jugement, c'est-à-dire de, à la différence du discours militant. C'est-à-dire d'essayer de comprendre en fait l'efficacité de ces discours-là, notamment par exemple les discours du management, les discours du coaching, etc. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Comme de la même manière que m'intéressent les sociétés fermées, c'est-à-dire qu'on m'intéresse les groupes, les sectes, etc. Il ne s'agit pas de dire que c'est horrible. Comme on dit aujourd'hui, on défend la grande société ouverte, mondiale, etc. Et constater qu'il existe ces ennemis qui sont les groupes fermés, les sociétés fermées. Moi j'ai envie de comprendre pourquoi les gens s'enferment. Pourquoi ils s'enferment dans des communautés, dans des résidences fermées, pourquoi, et de la même manière, pourquoi ils écoutent, et pourquoi ça marche, le discours du management, le discours du marketing. C'est quelque chose de ça, c'est quand même. C'est un discours ridicule, c'est un discours dont on peut très facilement se moquer. C'est pour ça qu'il y a parfois des exercices littéraires qui peuvent m'agacer, qui finalement se limitent à une sorte de parodie du discours managérial, du discours économique, du discours de l'entreprise, etc. C'est beaucoup trop simple. Parce que à ce titre-là, on ne comprend pas pourquoi ça marche. Qui me semble plus intéressant.
Eh bien, merci beaucoup, Hugues Jalon.
Merci à toi.
D'avoir été avec nous au téléphone, en direct, pour nous parler de Zone de combat et puis de la base. Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci.